Bonsoir, alors si je vous fais la liste, hein, vous allez avoir le tournis de ce qui vous attend en 2018. Hein. Le Brexit, la nouvelle supervision financière, les nouveaux besoins de financement de l'économie, notamment l'immatériel qui gagne du terrain, les nouvelles monnaies, le Bitcoin, les autres, les banques centrales qui vont lever le pied un peu dans leur soutien à l'économie, justement. Il va s'en passer des choses. Dix ans après la grande crise, est-ce que l'euphorie va résister aux enjeux de la nouvelle année? Alors, emballement, apaisement, est-ce que les marchés sont bien armés pour affronter 2018? Voici les décodeurs de l'écho.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Ah oui, de grands enjeux pour cette année 2018, hein, ça ne s'arrêtera jamais. On va en parler ce soir, invité exceptionnel, Robert Ophèle. C'est le président de l'autorité des marchés financiers, le régulateur, l'AMF, qui présentait sa stratégie à 5 ans. Stéphane Giordano, le président de l'AMAFI, c'est l'association des marchés financiers qui regroupe tous les professionnels de la finance. Fabrice Pezin, le médiateur national du crédit. Et puis Gonzague Granval, fondateur de Wharton, ardent défenseur du Bitcoin. Il est déjà venu à un décodeur des décos. Et c'est vrai qu'on va revenir, elle n'est pas là ce soir pour démarrer sur la passe d'armes de la semaine dernière par vidéo et Twitter interposés. Vous vous en souvenez, on vous en avait parlé, bien sûr. Épisode 1 pour Nabila, le Bitcoin. C'est cool.
C'est un peu la nouvelle monnaie, genre la monnaie du futur. Et donc, en fait, je trouve que c'est assez bien. Je pense que c'est le moment, ça commence à peine à se développer. Et je pense que c'est le moment de s'y intéresser un petit peu. Et en fait, même si vous y connaissez rien, ça vous permet de gagner de l'argent sans investir beaucoup.
Ouais, bon, ça c'était l'épisode 1. L'épisode 2, très rapidement. Hein, voilà, vous tweetez, vous l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Nabila, le Bitcoin, c'est très risqué. Qu'est-ce qui vous a pris de répondre à Nabila comme ça en tweet? C'était quoi l'esprit? Que les gens sont trop fragiles, trop crédules? Est-ce que vous n'avez pas donné trop d'importance à Nabila quelque part?
Non, mais il y a un moment où il faut dire attention, et il faut répondre. Nous pensons qu'il faut répondre un peu dans le même registre que ceux qui font l'apologie du Bitcoin. En l'occurrence, non, le Bitcoin, c'est dangereux. Attention. Ce que cette dame disait n'est pas conforme à la réalité, et on ne peut pas inciter souvent des jeunes d'ailleurs à rentrer de façon non maîtrisée dans ce genre de placement. Et donc nous considérons que c'est notre devoir de dire attention, non, ce qui est dit là ce n'est pas la réalité, c'est dangereux.
Il y en a qui jouent avec les allumettes à vos yeux et des esprits trop crédules. Je cite le président de l'autorité européenne des marchés financiers, monsieur Steven Maier, interrogé à Hong Kong par Bloomberg, qui explique que les investisseurs en crypto-monnaie devraient être prêts à perdre tout leur argent.
D'ailleurs, si les auditeurs qui ont les suiveurs de Nabila qui auraient investi au moment où elle l'a incité à investir, je crois auraient fait au jour d'aujourd'hui une perte très substantiel, genre du tiers
au moins,
à peu près, au plus du tiers de ce qu'ils auraient placé. Donc voilà, elle a fait la preuve elle-même que il faut pas aller de façon inconsidérée sur ce genre de placement qui, par ailleurs, j'insiste là-dessus, n'apporte rien au financement de l'économie.
En tout cas, les faits vous ont donné raison. C'est vrai que vous vous rappelez, le Bitcoin aujourd'hui, sous les 10 000 dollars pour la première fois depuis début décembre, il a perdu le quart de sa valeur hier. Il a perdu 50% en un mois. Vous qui faites, alors je reprends l'expression du président de l'AMF, hein, Gonzague Granval, à la tête de Wharton, je ne sais pas si vous faites l'apologie du Bitcoin, est-ce que c'est une monnaie dangereuse, comme il vient de le dire, le président de l'AMF, hein?
Pas particulièrement. Il faut encore une fois rappeler que Bitcoin est une technologie, et qu'une technologie n'est pas dangereuse, l'usage qu'on en fait peut être dangereux, que la spéculation qui est menée sur Bitcoin, lorsqu'elle est faite, en effet, est promue par des personnalités comme celle que vous citiez.
Nabila, vous avez le droit de la citer.
Ouais, quand même, hein. À ce moment-là, en effet, c'est risqué. Tous les investisseurs dans Bitcoin savent à peu près qu'ils peuvent tous perdre une grande partie de leur capital, voire tout leur capital. Et d'ailleurs, moi-même et mes camarades qui sont un peu évangélistes en la matière, ne promulguent aucun conseil d'investissement. Ils disent bien à tout le monde, vous pouvez perdre tout votre argent, c'est une crypto-monnaie, c'est un jeton plutôt expérimental.
Même vous avez perdu de l'argent, vous, depuis quelques semaines, quelques mois ou pas?
Alors, je ne perds pas d'argent, car je fais partie de ces gens qui conservent leur Bitcoin. Je ne spécule pas, je ne joue pas, je suis un croyant à long terme de Bitcoin, et donc je ne perds pas d'argent. Tant que je ne réalise pas, je ne perds pas.
Allez-y, Robert Hoffel, oui, l'AMF, et puis juste après, Stéphane Giordano.
La technologie qui est derrière ces crypto-monnaies est une technologie qui mérite très largement qu'on s'y penche. C'est quelque chose d'innovant et
donc vous reconnaissez quelque part des vertus à la blockchain par exemple?
Énormément, oui. Énormément. Et d'ailleurs, il va y avoir des applications, des utilisations de cette technologie dans de nombreux domaines.
Vous pensez à quoi, par exemple, dans le domaine qui vous intéresse, qui vous regarde?
Par exemple, la gestion des titres non cotés. Ce sont des registres qui peuvent être tenus à l'aide de cette technologie qui a beaucoup d'avantages.
C'est un outil anti-crise, par exemple?
Non, c'est pas un outil. C'est pas un outil anti-crise, mais c'est un outil qui permet de gérer, qui peut permettre de gérer de façon fiable des mouvements, des transferts, de quel que soit l'actif qui est transféré. Ce qui est en cause ici, c'est la crypto-monnaie. C'est pas la technologie du
la blockchain. Alors, Gonzague Granval, et juste après, Stéphane Giordano, à la tête de l'AMAFI.
Alors, malheureusement, on entend souvent que ce qui est intéressant, c'est pas Bitcoin, c'est la technologie sous-jacente qu'on appelle la blockchain. Malheureusement, c'est strictement l'inverse. Et que la technologie blockchain, en tant que telle, n'est qu'une brique, une composante de Bitcoin. Et que la révolution, c'est bien Bitcoin. La révolution Bitcoin, c'est l'apport de cette invention sur le marché il y a 9 ans, de ce qu'est une sorte, je ne vais pas l'appeler une monnaie, mais une sorte de monnaie, complètement décentralisée, indépendante des banques et des États, et résistante à la censure. La blockchain, dont on parle aujourd'hui dans toutes ses applications diverses et variées, et parfois assez fumeuses, n'est rien d'autre qu'une infrastructure de signature électronique, technologie qui, elle, existe depuis fort longtemps. Donc il faut bien distinguer les choses, et donc la révolution, c'est bien Bitcoin, c'est absolument pas blockchain. Blockchain est une réappropriation d'une technologie ancienne qui se répand de plus en plus, qui est la signature électronique, sur des registres distribués, soit. Rien de nouveau là-dedans, ça a beaucoup d'histoire. En revanche, ce qu'il y a de nouveau, c'est que dans le paysage des monnaies, qui évolue très régulièrement finalement, hein, sur l'échelle de l'histoire, eh bien aujourd'hui on assiste à un avènement, à quelque chose de nouveau dans la révolution numérique. On a eu la révolution dans le domaine des communications, on a la révolution aujourd'hui dans le domaine de la monnaie. C'est une alternative, une proposition qui est faite au monde numérique.
Stéphane Giordano, à la tête de l'Association des marchés financiers, je le disais, qui regroupe tous les professionnels de la finance. À vos yeux, quelle est la durée de vie de ces monnaies, de ces crypto-monnaies, Bitcoin et les autres? Ça va continuer de s'effondrer, à votre avis? Est-ce que finalement, voilà, c'est un feu de paille quelque part?
Il y a une citation qu'on prête alternativement à Oppenheimer et un joueur de baseball américain, ce qui est sans doute la preuve qu'elle a une forme d'universelle vérité. Il est très dur de faire des prédictions, notamment sur le futur. Donc effectivement, il est extrêmement compliqué en l'état de se prononcer sur l'avenir du Bitcoin. Ce qu'on constate, c'est que il y a d'une part la technologie des registres partagés qui permet d'envisager un certain nombre de développements particulièrement intéressants en matière financière. Il y a d'autre part la question du Bitcoin. Aujourd'hui, les crypto-monnaies, c'est à peu près 600 milliards de dollars de capitalisation. Un peu plus de 200 milliards, enfin c'est un peu moins maintenant, effectivement, ces derniers jours, ça a un peu baissé. Ouais. C'est de l'ordre de 200 milliards sur le seul Bitcoin. On commence à atteindre des masses qui peuvent engendrer des risques systémiques. Bon, à cet égard, il y a récemment le CBOE et le CME aux États-Unis ont lancé la compensation de contrats futurs sur le Bitcoin, bien sûr, oui. Ce qui soulève un certain nombre de questions en matière de gestion des risques.
Et ça, alors, c'est une attitude dangereuse, irresponsable de la part de ces places financières, Robert Hoffel?
J'ai toujours laissé perplexe qu'on puisse avoir un marché dérivé régulé alors que le marché du cash lui-même ne l'est pas. Ce qui fait que la valeur dans laquelle on dénoue les contrats dérivés n'est pas établie de façon indiscutable. Et d'ailleurs, quand on regarde ce marché, on voit à l'intérieur d'une journée des valorisations extraordinairement fluctuantes, ce qui laisse à penser que ce marché n'est pas du tout efficient. Mais quelque part, c'est ce qu'il souhaite. Il souhaite ne pas être régulé. Ne pas être régulé, ça veut dire que peut tout se passer sur le marché. Et par ailleurs, le fait qu'il n'y ait pas de banque centrale qui est vraiment au cœur de la démarche Bitcoin, ce qui signifie qu'il n'y aura personne pour assurer la stabilité de la valeur de la monnaie. Alors, et quand il n'y a personne pour assurer la stabilité de la valeur de la monnaie, je considère qu'il y a un léger problème sur l'utilisation de cet élément.
Bruno Le Maire, il a chargé Jean-Pierre Landau, ancien sous-gouverneur de la Banque Centrale, de proposer des pistes d'encadrement réglementaire de toutes ces monnaies. Le sujet devrait être à l'ordre du jour d'un futur G20. Est-ce qu'il faut, est-ce qu'on peut réglementer le Bitcoin? Dans quelle direction, Robert Ophèle, président de l'AMF, hein?
Non, c'est un sujet qui est vraiment ouvert, parce que on voit que certaines réglementations sont orthogonales avec ce que souhaitent les promoteurs de ce genre de choses. En particulier, c'est de dire la traçabilité des opérations, la fin de l'anonymité. Des détentions des transactions, ça c'est quelque chose qui pose problème. Ensuite il y a
donc mission vaine quand on demande de réguler.
Une vraie question, ouais. Et jusqu'où il faut aller, et vraiment l'idée c'est de dire on ne peut pas réguler cela de façon nationale, il faut qu'il y ait une démarche
d'où le G20 en Argentine prochainement. Bien sûr. Fabrice Pezin, le médiateur du crédit.
Justement, moi, je crois que il faut qu'on ait une réflexion, en effet, justement, comment utiliser ce potentiel, que ce soit la blockchain ou les crypto-monnaies, pour justement financer l'économie. Ça veut dire que, à la fois, enfin, il y a trois termes, blockchain, crypto-monnaie, bitcoin. Bitcoin, je dis pas qu'elle a une certaine image, et je trouve que ça parasite un petit peu tout le reste. Mais pour moi, la blockchain...
Mauvaise image à vos yeux?
Bah, disons qu'on en parle, c'est Nabila, une volatilité énorme, voilà.
Bon, on arrête d'en parler après.
En fait, la question, c'est notamment, bon, la blockchain, est-ce qu'il y a un potentiel? Est-ce qu'il y a une utilité sociale? Et comment ça peut avoir une utilité? Moi, je crois que ça en a une. Ça a beaucoup d'applications qui dépassent largement l'univers financier. Maintenant, si on en vient aux crypto-monnaies, je crois que là, on voit petit à petit, il y a des idées, on parlera peut-être des ICO, on voit que peut-être, on peut mettre des conditions pour que cette crypto-monnaie soit utile au financement de l'économie. Et c'est pour moi plus cette réflexion, et la mission en effet confiée à Jean-Pierre Landau et les réflexions au niveau international peuvent aller aussi dans ce sens-là. Ça veut dire on a une technologie, oublions le Bitcoin qui a des particularités et pourquoi pas, mais il y a des crypto-monnaies, et comment on peut utiliser ces crypto-monnaies pour financer l'économie? Peut-être pas toute l'économie, peut-être certaines sociétés, peut-être certaines sociétés technologiques dans des phases de tout début de lancement, mais c'est plus ça la réflexion qu'il faut avoir.
Vous pensez qu'un jour on pourra se passer des banques avec l'émergence donc de la blockchain, ces transactions sécurisées entre acteurs, Fabrice Pezin, Stéphane Giordano, la tête de la Mafi?
Non, mais la question, enfin, de toute façon, n'est pas nécessairement de se passer des banques.
Par exemple, la blockchain,
les banques, et notamment les banques françaises, sont très en avance, et j'allais dire, participent à de nombreux groupes de travail, y compris au niveau de la place, sur la technologie blockchain. Donc, c'est pas nécessairement l'un contre l'autre. Visiblement, les banques, notamment françaises, ont envie d'assimiler cette technologie pour être elles-mêmes plus performantes. Il peut y avoir d'autres acteurs, mais elles-mêmes ont envie de maîtriser, j'allais dire, les codes de la blockchain. Sur les crypto-monnaies, j'allais dire, de toute façon aussi, tout le monde s'y intéresse. Des acteurs traditionnels classiques comme les banques, comme des nouveaux acteurs. Après, la question, c'est en effet de faire en sorte que ça soit utile en termes de financement, que ça soit régulé. Voilà, si c'est possible. Et c'est ça, à mon avis, le vrai débat qu'on doit avoir.
Alors, Gonzague Granval, Wharton et Stéphane Giordano pour répondre à ma question. Allez-y,
alors, la première chose, c'est que réguler Bitcoin, c'est pas possible. On peut réguler les activités autour de Bitcoin, mais vouloir réguler la technologie, c'est vraiment ne pas saisir le code est la loi et que la réglementation est dans le code. Donc on peut pas réguler la technologie. On pourra réguler les activités connexes à cette technologie. Ensuite, on veut réguler, pourquoi pas, voulons réguler le Bitcoin, qualifions-le tout d'abord. Si on en parle ici avec l'AMF ou avec la Banque de France, ça veut dire qu'on le considère comme un instrument financier, comme une monnaie. Si c'est le cas, appliquons-lui la fiscalité ad hoc, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et aujourd'hui, je ne peux pas entendre des discours sur la fiscalité, sur les avis de tout le monde sur une technologie dont on n'a pas qualifié le jeton et pour lequel on veut opérer une réglementation, une régulation. Ça n'a pas de sens, on fait les choses à l'envers. Donc d'abord qualifions Bitcoin, ensuite donnons-lui une fiscalité, et vous verrez déjà que Bitcoin finance aujourd'hui une économie et une industrie considérables dans le monde entier.
Alors Stéphane Giordano et Robert Ophèle à nouveau. Allez-y Stéphane Giordano à la tête de l'AMAFI.
Alors en matière de financement de l'économie, je ne crois pas que le Bitcoin puisse jouer un rôle nécessairement critique. Les technologies, en revanche, de registres partagés, de blockchain, peuvent apporter un certain nombre d'avantages. La technologie ne change pas la consistance du monde. En matière de financement de l'économie, le vrai sujet, c'est l'allocation de l'épargne en réalité. Comment est-ce qu'on s'assure que l'allocation de l'épargne va de manière efficace vers les entreprises, et particulièrement vers les entreprises de taille petite et moyenne, et particulièrement vers les entreprises innovantes? Est-ce que là-dessus, il y a besoin du Bitcoin pour diriger et orienter cette épargne-là? Je n'en suis pas persuadé.
La réponse est non. Robert Ophèle, encore un mot sur le Bitcoin, puis on continuera justement sur... les autres enjeux de 2018.
Quand on veut qualifier le Bitcoin, ce qui effectivement n'est pas le cas aujourd'hui, on ne sait pas dans quelle case mettre cet élément-là. On évite sur l'ensemble des jetons, c'est-à-dire des jetons qui peuvent servir de crypto-monnaie et d'autres qui donnent des droits différents. C'est les ICO là qui je dis pas qui fleurissent, mais qu'on voit apparaître. Et là, on voit qu'il y a une énorme variété de cas. C'est-à-dire les droits qui sont associés à quelqu'un qui souscrit à un ICO et finalement peuvent être très très différents d'un cas et l'autre. Et donc la qualification dépend vraiment d'une typologie à faire. Nous avons lancé à l'AMF une consultation sur le sujet. On a eu beaucoup de réponses. Elle vient juste de se clôturer et donc on va...
Et ça dit quoi ?
Eh bien, ça dit... plutôt à ce stade, pas de régulation, mais donnez-nous des bonnes pratiques. Donnez-nous des bonnes pratiques qui permettraient peut-être de dégager un label qui dirait bah ça, il y a une réalité sérieuse derrière. Donc on regarde ça tranquillement.
Ça sera au cœur de votre stratégie à 5 ans. Les armes anti-crise, tiens, est-ce qu'elles sont efficaces? Oui, 10 ans après la grande crise de 2008, hein, un certain nombre de règlements ont été pris depuis. On est dans la phase de l'aboutissement des réformes prises après donc la crise. Alors, est-ce qu'il faut les peaufiner? Est-ce qu'il faut les renforcer? Est-ce que les normes sont suffisantes ou trop contraignantes? C'est la directive européenne MiFID 2 qui vise à améliorer la transparence des marchés tout en protégeant les investisseurs. Elle est opérationnelle depuis le 1er janvier. Les opérateurs doivent expliquer eh bien pourquoi ils achètent une valeur, pourquoi ils la vendent, pourquoi on suit une recommandation. Il faut maintenant renseigner une soixantaine de paramètres avant même de pouvoir traiter une opération. Est-ce que c'est pas un peu lourd, Robert Ophèle, justement? Est-ce que tout ça ne coûte pas trop cher aussi? Est-ce que les petites maisons de gestion ne vont pas être, allez, mises un peu en danger? C'est ce qui se dit, hein?
Il faut bien avoir en tête l'objectif. L'objectif, oui, c'est que nos marchés fonctionnent mieux parce qu'ils seront plus transparents.
Et solides.
Plus transparents, plus solides. Et je préfère aborder les années qui viennent avec des marchés plus transparents et plus efficaces. Et c'est vrai que c'est lourd, mais j'observe qu'il n'y a pas eu de problème particulier sur les marchés depuis les 15 jours maintenant que nous sommes en application
de cette nouvelle réglementation.
On ne va pas conclure aujourd'hui parce que c'est tellement lourd et important qu'il va y avoir des évolutions structurelles dans l'industrie. Et que l'on, il faut attendre.
Mais vous comprenez quand même les hésitations, les résistances, non pas résistances, mais en tout cas.
Les dépenses, elles ont déjà été faites.
Ouais.
Parce que les établissements les ont faites pour pouvoir mettre en œuvre la réglementation. Donc, maintenant, il faut en tirer le meilleur profit. Le marché, le régulateur aussi, parce que nous allons pouvoir suivre tout cela de plus près que nous le faisions avant.
Stéphane Giordano, il n'y a pas trop de normes, pas trop de réglementations, y compris dans ce secteur, comme il y en a également ailleurs, ce qu'on dénonce souvent?
On arrive sans doute à un tournant. C'est-à-dire on peut considérer aujourd'hui que les réglementations issues en réalité de la crise de 2008 sont maintenant matures. La question qui va se poser dans les années qui viennent, c'est la question de la supervision. C'est-à-dire comment est-ce qu'on s'assure que ces réglementations... qui sont uniformes au sein de l'Union, sont effectivement appliquées et surveillées de manière homogène d'un pays à l'autre. C'est tout l'enjeu.
Où est-ce que le bât blesse encore en ce moment ?
Aujourd'hui, on a sur certains sujets des autorités qui ont des applications très différentes les unes des autres.
Plus ou moins larges.
Certains cas en 2017 l'ont assez bien montré. Typiquement, l'AMF s'est emparée, et a raison, du sujet de la promotion d'instruments qui étaient extraordinairement risqués et spéculatifs et qui étaient activités qui étaient menées par des établissements tout à fait régulé dans des pays beaucoup beaucoup trop laxistes en la matière. Il importe que on ait davantage de cohérence et d'homogénéité en matière de supervision dans l'avenir.
Et vous avez assez de moyens, justement, vous, l'AMF, le gendarme des marchés financiers, justement, pour aller traquer tous ceux qui...
Nous avons des moyens. Nous allons...
Au-delà des vidéos de Starlet. Hein,
nous allons essayer de les utiliser au mieux. Les utiliser au mieux, c'est en effet, comme il vient d'être dit, faire plus de supervision. L'effort de réglementation, il est largement derrière nous. Maintenant, il faut qu'on mette l'accent sur la supervision. Et comme il vient d'être dit, dans un espace unique européen, la supervision, elle doit être coordonnée. Elle peut pas être faite de façon nationale.
Bien sûr.
Et c'est là où nous pensons que l'ESMA, qui est l'autorité
européenne des marchés,
doit avoir un rôle beaucoup plus important pour assurer l'homogénéité de la mise en œuvre de ces règles communes.
Est-ce que vous dites, voilà, s'engager pour une Europe à 27, oui, 27, on reparlera du Brexit tout à l'heure, intégrée, compétitive. Fabrice Pezin, le médiateur du crédit.
Non, là, en effet, on a tiré quand même beaucoup d'enseignements et de la crise financière. De toute façon, j'allais dire, il y aura toujours des adaptations à avoir au niveau prudentiel, parce qu'il y a de l'innovation dans le monde financier et qu'il faudra à chaque fois s'adapter. Après, j'allais dire, et c'est plutôt mon côté médiateur du crédit, c'est-à-dire en effet, on sait très bien que dès qu'on touche aux règles prudentielles, ça a un impact sur le financement de l'économie, et donc il y a toujours cet équilibre subtil à avoir. On place le curseur pour que, évidemment, la stabilité financière est fondamentale. Et puis, évidemment, il faut regarder aussi, à la fin des fins, bah, justement, la bonne allocation de l'épargne vers le financement des entreprises. Et
il ne faut pas que la réglementation soit trop contraignante. C'est ce que vous voulez dire quelque part. Voilà, il y a un curseur à...
Oui, et puis on a tout intérêt à faire, en effet, des bilans réguliers sur est-ce qu'on est dans le bon équilibre entre la stabilité financière et le financement de l'économie. C'est normal.
2018, les marchés sont-ils armés pour affronter la nouvelle année? Ce sera l'année de remontée des taux, l'année aussi de désengagement des banques centrales. Robert Ophel, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il faut être préoccupé par une remontée des taux, sur l'ampleur de la remontée? Est-ce que ça se fera en douceur ou pas? Ça surveillé de près ou pas, à vos yeux?
Bien sûr,
ouais.
Bien sûr, mais les banques centrales ont l'habitude de faire cela de façon ordonnée. Et en prenant en compte.
Donc, elles ne vont pas prendre de risques, hein, les banques centrales.
Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la croissance est là.
Oui, oui.
C'est fondamentalement, c'est ça. Et donc, pour les marchés, le fait que la croissance soit là, c'est fondamentalement une excellente nouvelle. Donc, nous l'abordons avec un esprit extrêmement positif.
Il va falloir faire avec, Fabrice Pezin ou Stéphane Giordano, justement, avec le désengagement des banques centrales. Il va falloir apprendre à vivre sans. Quand on va, par exemple, en Europe, la BCE, elle est encore présente avec 30 milliards d'euros d'achats d'actifs chaque mois, au moins jusqu'au mois de septembre, justement. Le fait que les banques centrales se désengagent, il va falloir apprendre justement maintenant à vivre sans.
Oui, mais en effet, moi je reprends ce que vient de dire Robert Ophel, c'est-à-dire c'est en effet un bon signe. Ça veut dire, moi je le vois au niveau de la médiation du crédit, ça veut dire qu'on a tout simplement des entreprises qui sont en meilleure situation financière.
Cet univers de Tobey, il a permis à certains grands groupes justement de se solidifier.
Oui, mais pas que les grands groupes. Si vous regardez aujourd'hui, on a une conjoncture économique qui est bien mieux orientée. On a beaucoup de signaux qui passent au vert. Dans la plupart des secteurs, on a, quand on regarde les bilans et les comptes des entreprises, eh ben oui, on a des taux de marge qui sont bien orientés, on a une rentabilité économique, une rentabilité financière qui est bien mieux orientée, et donc c'est des entreprises qui sont alors à l'instant T en meilleure situation financière, et d'ailleurs les projets qu'elles portent, qui sont sur le futur, des paris sur le futur, bah, j'allais dire, comme tout le monde a une vision beaucoup plus optimiste et positive de l'évolution sur les 2, 3, 4, 5 années à venir, c'est des projets auxquels, j'allais dire, beaucoup plus de monde croit. Et en termes de financement, bah, j'allais dire, quand une entreprise qui a à la fois une situation économique saine et qui a des perspectives plutôt sympathiques, bah, pour trouver du financement, même puisque dans un cadre de normalisation, et je parle bien de normalisation de la politique monétaire, et ben c'est quand même une entreprise qui va trouver du financement en dette, en fonds propres.
Stéphane Giordano.
Oui, les marchés ont vécu longtemps hein, sans l'intervention des banques centrales. Ce qui est clair, c'est que
on a peut-être pris des mauvaises habitudes. Ça.
Une certaine normalisation, une hausse des taux, la fin des achats, des programmes d'achat d'actifs, ça va avoir un impact sur les marchés et en premier lieu sur typiquement la liquidité des marchés obligataires. Bon, mais je pense qu'on peut tout à fait faire confiance à la BCE pour gérer
doucement
la fin de son intervention de manière assez assez douce pour éviter des effets de choc.
Bon, allez, on se retrouve dans un instant sur les enjeux pour 2018. On est notamment avec Robert Ophel, président de l'Autorité des marchés financiers. Tiens, on verra s'il faut freiner le crédit aux entreprises. On verra également comment favoriser l'innovation, justement, comment est-ce qu'on finance l'immatériel qui prend de plus en plus d'ampleur dans les activités des entreprises. Vous savez, quand on parle d'intelligence artificielle, quand on parle de transformation numérique, et puis le Brexit aussi. À tout de suite avec les décodeurs de l'écho sur BFM Business, à la télé et à la radio.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Alors les marchés et l'économie sont-ils bien armés pour affronter 2018 hein, dans un contexte qui évolue énormément? On a parlé des banques centrales, on parlera du Brexit, on a parlé des nouvelles monnaies également, bien sûr. Tiens, la croissance est là, c'est un bon signe, hein, vous le disiez il y a un instant. Hein, l'économie française est en forme, alors jusqu'où ça montera, donc évidemment à voir. En tout cas, cette question, est-ce que le secteur financier va suivre? C'est le Haut Conseil de stabilité financière, il y a deux semaines à peu près, qui se posait cette question, est-ce qu'il faut freiner le crédit aux entreprises? Ah oui, trop de dettes du côté des entreprises, trop de crédits distribués par les banques. Est-ce que le crédit bancaire tourne trop vite en France? Tiens, Robert Ophel, président de l'Autorité des marchés financiers, comment on y répond justement?
Et membre de la de cette
bon, ah oui, membre du
Haut Conseil de cette instance.
Alors, allez-y, et membre de cette double instance. Titre alors.
Donc oui, dans la
est-ce que c'est périlleux?
C'est à surveiller. Et c'est d'autant plus à surveiller que précisément on a des perspectives de remontée des taux. Ça veut dire que quand il faudra rouler la dette, la refinancer, ça sera peut-être à des taux qui ne seront pas ceux d'aujourd'hui.
Le niveau de la dette privée est deux fois plus important que celui du PIB. Est-ce que ça peut être difficile à supporter si les taux remontent brusquement?
Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que les financements des entreprises pris globalement, c'est un taux de croissance à peine inférieur à 5%. Mais à 5%, donc très au-delà de la croissance en valeur du PIB. Le taux de croissance des crédits aux ménages, c'est un peu plus de 6%. Donc on est dans des zones sur lesquelles la croissance de ces financements est très rapide. On partait de niveaux qui n'étaient pas très élevés. Donc il n'y a pas de... Mais c'est vraiment un point de vigilance, surtout qu'en Europe, on est très atypique. Très atypique. Dans la plupart
la
des
France
autres
se distingue, les autres, ils sont plus davantage prudents,
beaucoup moins vive. Alors beaucoup d'entre eux partaient de plus haut, ce qui fait que voilà. Mais le plus important, ces financements, il faut qu'ils servent à remonter le potentiel de croissance de l'économie française. Ce qui compte plus que les montants, c'est on en fait quoi?
Ouais, c'est ça. Ouais, justement, on va y revenir dans un sens. Simplement, tiens, Fabrice Pezin, le médiateur du crédit, est-ce qu'il faut faire attention, en effet, à la situation française? Est-ce qu'il faut freiner le crédit aux entreprises, justement? Est-ce qu'on a été trop généreux, justement? Est-ce que la dette est trop élevée, quelque part?
Mais en effet, il faut être vigilant sur l'évolution globale. Au-delà, et c'est vrai, j'allais dire, on voit cette évolution de l'encours de dette sur les marchés comme au niveau du crédit bancaire qui en effet, dont le taux de croissance est nettement supérieur au taux de croissance de l'économie française. Par derrière, quand même, il faut regarder, je crois, à mon avis, il y a quand même des différences à faire entre les grandes entreprises, et puis l'ETI, la PME et la TPE. Là, on a des choses un peu différentes. Alors moi, je suis plutôt positionné sur ETI, la PME, bien sûr, l'ETI, la TPE. Et là, ça peut être un petit peu différent. Il y a du crédit, attention, qui est distribué au niveau de cette entreprise. Maintenant, quand on regarde, il y a aussi une évolution des fonds propres, parce que finalement, on peut faire Alors c'est vrai qu'on peut faire des ratios par rapport à la valeur ajoutée. On peut faire aussi des ratios tout simplement par l'évolution des fonds propres. Nos PME d'ailleurs ont plutôt une gestion prudente. Ça veut dire qu'elles mettent leurs résultats en réserve, ça fait des fonds propres. Donc on a quand même, quand on regarde au niveau de nos PME, on a quand même des ratios d'aide sur fonds propres qui quand même
sont plus acceptables.
Voilà. Plus acceptables. Voilà. Il faut regarder aussi d'ailleurs, parce que là on parle de dette brute, il faut regarder aussi la dette nette des actifs, parce qu'il y a aussi l'accumulation d'actifs financiers. Donc, mais maintenant, en effet, je crois qu'il faut être vigilant. Maintenant, moi, je mets pas tout le monde dans le même sac. Voilà, au niveau des TPE, PME, ETI, c'est un petit peu différent.
Les grandes entreprises sont plus, comment dire, allez, menacées, irresponsables. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement?
Non, en fait, quand on regarde les chiffres globaux, quand on regarde l'endettement dans les statistiques de la Banque de France, en fait, l'air de rien, c'est l'endettement des grandes entreprises, parce que bah, y a un effet structure. Ben, voilà. Pour autant, après, la question, et c'est là où ça demande un diagnostic peut-être plus approfondi, c'est cet endettement, pourquoi faire? Est-ce que c'est de l'endettement pour faire de la croissance externe? Est-ce que c'est de l'endettement? Voilà, là, il y a encore, j'allais dire, aussi au-delà du constat, qui peut parfois être un peu inquiétant, il y a aussi de à quoi a servi cette dette. Ça, c'est un vrai sujet aussi.
Stéphane Giordano, président de l'AMAFI, l'Association des marchés financiers, les professionnels de la finance en France.
Je ne crois pas que la question se pose en termes de freiner le crédit. En revanche, on a un vrai sujet pour les entreprises françaises d'accès au capital. Pendant très longtemps, l'allocation de l'épargne a été pilotée par une fiscalité qui fonctionnait à l'envers. C'est-à-dire, il y avait une espèce de deal perdant-perdant. On incitait les épargnants à mettre leur épargne sur des investissements qui leur rapportaient rien. Et puis, en face, l'État concédait des avantages fiscaux sur ces placements-là. Il y a une vraie question de renforcement du capital pour la croissance des entreprises. En la matière, les ratios dette sur capital sont pas particulièrement mauvais en France. Mais si on observe la situation européenne par rapport à l'Europe, mais si on observe la situation européenne par rapport à la situation aux États-Unis, on constate que le capital ouvert, c'est-à-dire qui permet aux entreprises de se développer, est complètement sous-pondéré en Europe.
Ouais. Il y a un nouveau contexte fiscal aussi en France en 2018. Qu'est-ce qu'on fait de l'argent libéré par la fin de l'ISF, par la flat tax, le PFU? Vers quoi l'orienter? Comment l'envoyer vers les entreprises? Kim Diamo, Robert Ophel à la tête de l'AMF?
Financer la croissance, c'est financer l'innovation, et financer l'innovation, c'est prendre des risques. Et prendre des risques en fonds propres, parce que c'est ça. Donc, il faut trouver des dispositifs qui favorisent cela. Alors, et ce sont des investissements de long terme, dans un certain nombre de cas. Il y a des dispositifs, qui sont à l'étude, dans le cadre du projet PACTE. Des choses vont être mises sur la table pour améliorer cela. Mais fondamentalement, c'est ça l'objectif.
Je parlais de l'ISF, juste un mot, Fabrice Pezin, la fin de l'ISF PME, c'est préjudiciable ou pas pour le financement des entreprises? On a supprimé l'ISF, donc on a supprimé l'ISF PME.
J'allais dire, il faudrait savoir ce qu'on veut, mais on a peut-être à réinventer, en effet, la loi dit PACTE va être justement, il y a une consultation actuellement pour justement trouver les moyens, en effet, et ça, on revient toujours au même sujet, d'allouer, j'allais dire, en effet, l'épargne vers l'investissement. Je crois qu'il faut qu'on se désintoxique des incitations fiscales dans tous les sens. C'est ça qui est assez extraordinaire, c'est ceux qui voulaient la suppression de l'ISF en même temps que vous voulez quand même garder une niche fiscale. C'est dire si on est quand même des drogués de la niche fiscale, et notamment dans la fiscalité de l'épargne.
Bien français.
Je crois qu'on a tout intérêt à se désintoxiquer des différentes niches fiscales qui ont fleuri depuis des décennies dans ce pays. Pour autant, après, on revient sur le classique, c'est qu'il y a de l'épargne, et en France, elle est abondante. Et après, comment on fait en sorte que cette épargne, sans une avalanche de dérogation fiscale, j'allais dire, finance l'économie réelle.
Gonzague Granval, fondateur de Wharton.
Alors, dans le cadre du financement de l'innovation et en particulier des jeunes sociétés, toutes les start-up, apparaît sur le marché un phénomène dont M. Ophel a parlé précédemment, qui sont les ICO pour Initial Coin Offering, l'émission de jetons par des sociétés dont l'objet du jeton est à qualifier, savoir si c'est une quasi-action ou un jeton utilitaire pour le service rendu par la société. Et l'émission de ces jetons par les start-up permet de financer leur activité sans avoir à diluer leur capital, puisque ces jetons ne donnent droit à généralement pas grand-chose d'autre qu'un droit d'usage futur, éventuellement des droits de vote sur les décisions de la société. Et par ces opérations ont été financées beaucoup d'opérations dans des proportions parfois assez considérables, voire stratosphériques. Et aujourd'hui, on essaye de trier un peu le bon grain de livret dans toutes ces opérations et de voir dans ce nouveau modèle de financement quelque chose de très innovant par rapport aux méthodes classiques d'investissement par des fonds d'investissement ou par des investisseurs ex-ISF, qui investissaient en contrepartie de capital dans la société et qui désormais investissent sur un nouveau modèle qui va venir changer ou modifier toute la chaîne d'investissement.
Alors, favoriser l'innovation, le financement de l'économie, les nouvelles technologies aussi au cœur de vos engagements à l'AMF. La transformation numérique, Fabrice Pesin, donc obligatoire, vitale, hein, qui a un coût quand il s'agit de financer un site internet, des algorithmes, de l'intelligence artificielle. Enjeu considérable, est-ce qu'on doit financer l'immatériel finalement aux mêmes conditions que l'ancien, hein, voilà, les biens matériels. Vous aviez rendu un rapport au nom de l'Observatoire donc du financement des entreprises, hein, avec deux visions, celle du banquier qui a du mal à quantifier le risque, qui connaît pas toujours tout, hein, qui comprend peut-être pas forcément tout du numérique, et puis les entreprises qui ont besoin justement d'être financées. Est-ce que vous avez l'impression qu'en 2018, les banquiers vont être beaucoup plus enclins à comprendre tous ces phénomènes, finalement à s'ouvrir davantage, à ouvrir leurs lignes?
Mais j'allais dire, la transformation numérique, ça s'impose à tous. Ça s'impose à toutes les entreprises. Les TPE, les PME, les ETI et les grandes entreprises. Alors les grandes entreprises, elles ont accès à tous les financements, c'est pas trop le sujet. Mais moi ce que je veux dire, et en plus je parle pas du tout des start-up parce qu'elles sont, elles sont digital natives. Mais on est bien d'accord, c'est toutes les entreprises traditionnelles qui doivent se poser la question, en effet, est-ce que je suis présent sur les réseaux sociaux? Est-ce que je fais des objets connectés? Est-ce que je fais...
Mais il faut pouvoir être financé, c'est ça que je disais.
Voilà. Et donc... tous doivent se poser la question.
La notion de risque pour un banquier, elle est plus celle qu'il connaissait jusqu'à présent.
Tout à fait. Parce que la caractéristique de la transformation numérique et de son financement, c'est que souvent, en effet, c'est de l'investissement immatériel, donc ça n'offre pas naturellement de garantie.
De vision, voilà,
de visibilité. De garantie à un prêteur qui exigerait des garanties. En plus, en effet, on est sur, j'allais dire, un terrain nouveau. Donc c'est nouveau pour l'entrepreneur, c'est nouveau pour le banquier. Donc il faut analyser avec parfois de nouvelles grilles d'analyse tous ces projets-là. Même faire un business plan en transformation numérique, c'est plus compliqué que de faire un business plan pour acheter la énième camionnette ou autre four à pain. C'est beaucoup plus compliqué. Après, on a des sujets, par exemple, un peu qui rendent le sujet encore plus compliqué. Par exemple, typiquement les écritures comptables. Ça veut dire que quand on est dans l'immatériel, dans les dépenses immatérielles, souvent tout ça passe en charge. C'est pas nécessairement vu dans les comptes comme étant de l'investissement, alors que moi, en tant qu'économiste, je considère que c'est de l'investissement. Donc, on voit que de nombreux acteurs, bien au-delà des chefs d'entreprise, les experts comptables, les banquiers, tous ont à revisiter leur grille d'analyse. Et j'allais dire, c'est aujourd'hui, parce que la transformation numérique, c'est pas dans 5 ans. C'est tout de suite, c'est le bon moment et ça concerne tout le monde. Donc ça peut être très massif.
Ouais, juste un mot, Robert Ophel, le secteur financier va être beaucoup plus sollicité. Est-ce qu'il pourra faire face, justement? Oui, non?
Oui.
Oui, d'accord. Non, parce que vous tourniez la tête dans un sens négatif.
Non, mais bien sûr, bien sûr, c'est son fonds de commerce. Ouais. Il s'adapte.
Ouais, d'accord.
Il s'adapte. Ils intègrent ça. Il faut d'ailleurs souligner dans ces matières-là le rôle tout à fait utile qu'a eu BPI France pour accompagner ces financements.
Quelques petites questions d'actu pour terminer. Robert Ophel, nouveau record aux États-Unis. On a dépassé les 26 000 au moment où on se parle, hein, juste avant 20 heures. Donc on est au-dessus des 26 000 pour le Dow Jones. Hein. Tout va vite, hein. 25 000 il y a quelques jours, 24 000 avant. C'est une marque de confiance alors que le premier anniversaire de Trump arrive. Est-ce qu'il y a un risque de correction à venir ou pas? Parce que ça va pas s'envoler non plus jusqu'au ciel. Hein. C'est du jamais vu ce qui se passe quand même. Plus d'un an de hausse à Wall Street.
Non, non, bien sûr, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, en France, on n'est pas au plus haut, alors que aux États-Unis, on est au plus haut et on bat des records. C'est aussi la prise en compte des réformes fiscales aux États-Unis qui progressivement se fait. Au départ, on ne voyait pas trop la portée exacte de cette réforme. Et,
est-ce qu'elle commence pas à avoir des conséquences pernicieuses, justement, avec des impacts sur les banques, Citigroup, hier, qui annonce une perte de 18 milliards de dollars, Goldman Sachs, aujourd'hui, en raison de charges exceptionnelles liées à cette réforme, puisque l'abaissement du taux d'impôt sur les sociétés diminue le crédit d'impôt lié aux pertes accumulées pendant la crise. C'est périlleux ou pas, ce qui se passe aux États-Unis?
Non, ça, de ce point de vue-là, c'est pas problématique. Il y a encore beaucoup d'éléments qui doivent être clarifiés, en particulier parce qu'il y a maintenant une non-déductibilité d'un certain nombre de charges qui viennent de filiales ou de correspondants à l'étranger.
Vous me dites un mot, Stéphane Giordano, vous le président de la MAFI, sur ce sujet?
Oui, alors enfin sur l'état des marchés, le fait que les marchés se portent bien.
Il y a des risques d'aveuglement ou pas?
On est évidemment très content. Non, je pense que tout le monde est assez lucide sur le fait effectivement que tout ça est porté par notamment la réforme fiscale, que les arbres montent pas jusqu'au ciel. Ce qui doit nous intéresser aussi, et c'est lié à certaines réformes en cours, la réforme fiscale américaine a un rôle là-dedans et le Brexit évidemment. Ce qui doit nous intéresser aussi, c'est le risque de fragmentation des marchés, c'est-à-dire d'avoir des marchés plus étanches les uns par rapport aux autres, et que l'allocation des ressources rares par les intervenants se fasse de manière plus imperméable entre les zones géographiques.
Dernier mot juste sur le Brexit, hein, Robert Hoffel, puisque vous engagez pour l'attractivité des marchés, bah justement l'attractivité de la place financière de Paris. Est-ce que vous avez reçu déjà des dossiers de banques britanniques qui ont décidé de s'alléger, de se délocaliser, banques britanniques ou autres, hein, banques françaises aussi, hein.
C'est surtout des banques américaines, japonaises, suisses, installées au Royaume-Uni et qui vont rééquilibrer leurs équipes.
La France, elle a une chance d'attirer les exilés du Brexit ou pas?
Nous allons passer d'un monde, d'une Europe avec une place financière très dominante, Londres, à une Union européenne à 27. Avec des places financières significatives.
Plus ou moins équilibrées?
Mais plus ou moins équilibrées. Bon. Avec des équilibres qui restent à écrire, mais plus ou moins équilibrés. Et Paris sera évidemment l'une d'entre elles, et j'espère une des vraiment plus importantes.
Vous avez des dossiers là qui arrivent?
Les dossiers, les gens sont très prudents, parce que le Brexit...
On ne sait pas où ça va. On ne sait pas où on en est.
Il faut encore préciser beaucoup de choses.
Les négos. Voilà. Voilà, tour d'horizon donc avec notamment Robert Hoffel, président de l'autorité des marchés financiers, le gendarme de la bourse, le régulateur qui présentait sa stratégie à 5 ans. Stéphane Giordano, président de l'association des marchés financiers, la MAFI. Fabrice Pezin, le médiateur du crédit. Puis Gonzague Grandvald, fondateur de Wharton, hein, un adorateur. Eh bien. Du Bitcoin, entre autres, hein, bien sûr, de toutes ces nouvelles monnaies dont on parle régulièrement. C'est fini pour les décodeurs de l'écho. On revient très très vite. Hein.
Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.